à toutes. Yacouba Ouédraogo de retour avec vous pour ce bulletin d'information. Merci d'être à l'écoute des programmes de VOA Afrique. Il est 15h ici à Washington, 19h en temps universel. Le président Kenya William Ruto soutient n'avoir pas de sang sur les mains après la journée de manifestation antigouvernementale meurtrière du 25 juin qui a fait selon lui 19 morts. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête. Cette journée de mobilisation a été marquée par la prise d'assaut du Parlement par des manifestants après le vote du projet de budget 2024-2025 prévoyant des hausses de taxes. La police a alors ouvert le feu sur la foule samedi. L'ONG Human Rights Watch a affirmé avoir recensé au moins 31 morts dans plusieurs villes du pays. Ce dimanche, quelques centaines de personnes ont marché pacifiquement à Nairobi en hommage aux victimes. Dans l'est de la République démocratique du Congo, une source locale affirme que le M23 s'est déployé dans la localité de Kirumba, dans la province du Nord Kivu. Le M23 a tenu ce dimanche une réunion à Kirumba et a annoncé à la population qu'il va à Butembo et Beni, puis à Kinshasa, selon un participant. Hier, c'est la ville clé de Kanya-Banyonga, située à 25 km de là, qui est tombée aux mains des rebelles. D'autres villes proches de Kanya-Banyonga sont aussi tombées aux mains des rebelles, selon des sources sécuritaires et des responsables. Le président Félix Tshisekedi a réuni samedi un conseil de défense, puis s'est exprimé à l'occasion de la journée d'indépendance, en affirmant que des instructions claires et fermes ont été données pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la RDC. Au Nigeria, au moins 18 personnes ont été tuées et des dizaines blessées dans plusieurs attentats suicides samedi dans la ville de Gwanza, dans l'état de Borno, dans le nord-est. Dans l'un des attentats, une kamikaze qui portait un bébé sur le dos a déclenché des explosifs au milieu des invités qui festoyaient juste après avoir assisté à un mariage dans la ville de Gwanza, a déclaré Naoum Kenef Dazo, porte-parole de la police de l'état de Borno. Ces attaques non revendiquées rappellent le mode opératoire du mouvement Boko Haram, très ancré dans cette région du Nigeria, frontalière avec le Cameroun. En Afrique du Sud, le nouvel exécutif sera un gouvernement d'union nationale inédit, comprenant une diversité de partis politiques suite aux élections législatives du 29 mai. C'est ce qu'a rappelé la présidence dans un communiqué annonçant une déclaration télévisée du chef de l'État ce soir. Objet d'intenses négociations depuis des semaines, ce gouvernement va compter une majorité de ministres du Congrès national africain, mais aussi plusieurs ministres issus du premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique. Le président Cyril Ramaphosa, 71 ans, va diriger ce gouvernement. Son parti, l'ANC, conserve 159 des 400 députés.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
En France, le président Emmanuel Macron a appelé à un large rassemblement démocratique et républicain au second tour des élections législatives. Face au parti d'extrême droite Rassemblement National, le RN arrive en tête au premier tour de ce scrutin avec plus de 34% des voix selon des premières estimations. L'extrême droite distance à ce stade l'alliance de gauche du nouveau Front Populaire 28,5 à 29,1% et encore davantage le camp d'Emmanuel Macron 20,5 à 21,5% selon ses premières estimations. Les Français ont rendu un verdict sans appel, s'est félicité Jordan Bardella, le chef de file de l'extrême droite. Le deuxième tour des législatives du 7 juillet sera l'un des plus déterminants de toute l'histoire de la Ve République, a-t-il ajouté, assurant qu'il voulait être, s'il l'emporte, le premier ministre de tous les Français, un premier ministre de cohabitation respectueux de la Constitution, mais intransigeant. L'armée israélienne a bombardé aujourd'hui la bande de Gaza, notamment le nord où les combats se poursuivent contre le Hamas dans le secteur de Shujaya. Nos forces sont en opération à Rafah, Shujaya, partout dans la bande de Gaza, a déclaré le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou devant le cabinet de guerre. L'armée a annoncé y avoir la veille éliminé plusieurs terroristes, découvert des armes et mené des raids ciblés sur des positions de combat piégées et avoir frappé des dizaines d'infrastructures terroristes. L'organisation palestinienne Djihad islamique a indiqué que Saïd Issa, un combattant de sa branche armée, Jaber, a été tué dans une frappe israélienne près de Toulkarem, dans le nord de la Cisjordanie occupée. L'agence de presse officielle palestinienne Wafa a précisé que 3 projectiles avaient été tirés par un drone contre une maison. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, les violences se sont intensifiées en Cisjordanie. En avril, 14 personnes avaient été tuées en 2 jours par des tirs israéliens à Nour Saham, selon le Croissant Rouge. Et puis la région de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, a décrété une journée de deuil dimanche au lendemain d'une frappe russe qui a fait 7 morts et près de 40 blessés. C'est tout pour ce bulletin d'information. Yacouba Ouédraogo à la présentation. Merci à vous de l'avoir suivi. Le prochain, c'est dans un peu moins de 2 heures. À tout de suite.
Foi et tradition,
vérité et doctrine,
le dialogue des religions
sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue dans le dialogue des religions consacré au pèlerinage annuel à la Mecque, le Hajj. Eric Manilakiza avec vous au micro. Michel Claire Joseph assure la réalisation. Le pèlerinage à la Mecque, ou Hajj, représente un moment crucial et sacré dans la vie des musulmans. Chaque année, des millions de personnes se rassemblent pour accomplir ce pilier de l'islam. Cependant, ce voyage n'est pas sans défi et les récentes tragédies nous rappellent les dangers auxquels sont confrontés les pèlerins. Avec près de 2 millions de personnes ayant participé cette année, le Hajj reste une entreprise logistique de grande envergure. Malheureusement, beaucoup de pèlerins tentent de rejoindre la Mecque par des voies irrégulières, faute de pouvoir se procurer les permis officiels souvent onéreux. Cette situation expose de nombreuses personnes à des risques accrus et les tragédies comme celles survenues récemment en sont le triste et reflet. Le récent bilan faisant état de 1081 morts avec une majorité d'Égyptiens, il y a eu des Tunisiens et des Sénégalais parmi les victimes, souligne la gravité de ces incidents. Pour les familles des défunts, il est réconfortant de croire que leurs proches ont atteint le paradis, une consolation ancrée dans la foi et la tradition. Nous explorons aujourd'hui les défis, les espoirs et les réalités de ce pèlerinage. Pour en parler, je suis en ligne avec le futur pèlerin, Ahmed Bakayoko, qui se trouve en Côte d'Ivoire. Ahmed, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Toujours en terre des Burnis, Imam Cissé Mustapha. Imam Cissé, bonsoir.
Bonsoir.
Je signale que vous êtes imam à la mosquée Siad Primo Rivera 4 et au Mali, Mohamed Abdelahi Al-Khalil. Il est promoteur du symposium du Sahel pour l'éradication de l'extrémisme violent, religieux et du terrorisme. Mohamed, bonsoir.
Oui, bonsoir Monsieur Eric.
Bienvenue à vous tous dans le dialogue des religions. Nous essayons de joindre une autre invitée, c'est Madame Aïda Sarr qui se trouve ici aux États-Unis dans l'état du Minnesota à Minneapolis. Alors, je vais commencer avec vous, Ahmed. Quels sont les préparatifs spirituels et logistiques que vous entreprenez pour votre futur Hajj?
Eh bien, le Hajj, comme vous le savez, c'est un voyage spirituel. Donc, il est important déjà, dans un premier temps, de tout confier à Dieu, à Allah, comme on le dit chez nous. Et donc, en ce sens-là, en tant que voyage de toute une vie, nous prenons des dispositions idoines pour que ce voyage-là ne nous surprenne pas et que nous soyons préparés à l'effet de bien le mener. En cela, vous le savez, les coûts sont assez importants et donc financièrement, nous nous préparons déjà, moi à mon niveau, je dis, il y a des préparatifs qui sont faits en ce qui concerne l'aspect financier. Au niveau de l'aspect logistique, c'est toute une batterie qu'il faut mettre en place. Et moi, dans logistique, je mets y compris l'accent, tout ce qui concerne le passeport, tout ce qui concerne aussi l'organisation, tant au niveau professionnel que familial, y compris dans tout cela. Et donc, c'est vraiment une planification qu'il faut faire à tous les niveaux de vie. Et moi, personnellement, je me prépare et ce n'est pas qu'une affaire de maintenant, depuis Bellurex.
Merci, Ahmed. Nous avons déjà en ligne Aïda Sarr qui est là. Bonsoir, Aïda.
Bonsoir, Eric. Vous allez bien?
Oui, ça va. Bienvenue encore une fois. Imam Cissé, voudriez-vous expliquer l'importance historique et spirituelle? Voudriez-vous plutôt partager votre expérience personnelle du Hajj et les moments les plus marquants de votre pèlerinage en quelques minutes?
Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Merci d'avoir contacté, je vais dire, ma modeste personne. J'ai beaucoup de des moments émotionnels et puis des moments historiques dans mon pèlerinage, parce que le pèlerinage d'abord c'est une adoration qui est liée aux moyens et à la capacité. Et lorsque on est invité, on va dire que tout le monde est invité par Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça a été conditionné avec celui qui en a la capacité. Et donc, une fois qu'on se voit parmi les pèlerins, il faut savoir que le pèlerin commence à se préparer. Et moi, personnellement, je suis avec une équipe vraiment qui était un peu difficile parce que pour se rendre à la Mecque, les structures qui sont en place, il y a des bons, il y en a qui doivent améliorer leurs conditions. Voilà. Maintenant, c'est un peu différent. Il y a beaucoup de cas où vraiment ça va. Oui. Sinon, l'année, nous sommes partis, il y a au moins 5 ans de cela. Alors, déjà en chemin, il n'y avait pas d'encadreur religieux. Bon, nous, en tant qu'imam, nous sommes avec un groupe, nous sommes devenus des encadreurs. Donc, lorsque il y a des pèlerins qui ont certaines difficultés, en tant qu'imam, on ne peut pas les laisser. Donc, il faut d'abord leur donner des conseils. Et puis, nous sommes arrivés à la Mecque, alhamdulillah, mais difficilement parce que avant de se déplacer, donc comme nous savons déjà que c'est une invitation qui émane de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, et que si Allah accepte, on peut se déplacer pour faire ce pèlerinage.
Nous allons revenir sur ces questions logistiques, Imam Cissé. Je me tourne vers Aïda Sarr. Aïda, quels sont les sentiments et les émotions que vous avez ressentis en entendant parler du bilan des morts lors de ce Hajj?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comme tout le monde, en fait, c'est des sentiments purement d'anxiété, de peur, d'impuissance, de tristesse, de douleur. Et se sentir vraiment frustré aussi, parce que certes, en fait, il est prévu que chacun de nous perdra sa vie, en fait, là où le bon Dieu l'a déjà prescrit. Mais il y a quelquefois, en fait, des mesures qui peuvent être prises aussi.
Nous allons parler de ces mesures. Et comment vous percevez l'importance du Hajj dans la vie d'un musulman, surtout en ce qui concerne votre propre pratique de la foi?
Waouh, c'est un acte de dévotion et d'adoration, en fait. C'est tout ce que chaque musulman souhaiterait accomplir. Oui, ça fait partie, en fait, des prescriptions du Coran. Pour chaque musulman, c'est un acte de purification, de renaissance spirituelle, je veux dire, en fait. Et quelque chose vraiment que, encore une fois, en fait, c'est le top, je dois dire, en fait, des vœux formulés par chaque musulman. C'est une unité, une égalité, en fait, qui ça ramène, en fait, à une unité, une égalité de tous les musulmans, quel que soit, en fait, leur statut social, leur statut, en fait, leur statut social, en fait. Mm-hmm. Tout ça, c'est pas important. Une fois qu'on accomplit le Hajj, en fait, on est dans le lieu saint pour faire cet acte divin. Alors, c'est quelque chose, en fait, que je souhaiterais faire bientôt, Inch'Allah.
Oui, comme Hamed qui est avec nous, lui, c'est, ah oui, il se prépare déjà. Nous avons Mohamed au Mali qui est spécialiste de l'islam. Pouvez-vous expliquer, Mohamed, l'importance historique et spirituelle du Hajj dans l'islam, brièvement?
Alors, bonsoir, cher Aïda, bonsoir, cher Imam Cissé, le frère également, et bonsoir, monsieur Eric. C'est une opportunité de partager vraiment ce moment avec vous. Et une question très, très pertinente. Le Hajj est tout d'abord, politiquement et surtout socialement, le Hajj est un acte de fraternité qui rassemble des personnes venant des quatre coins du monde comme un seul corps. Ça, c'est un signal fort du Hajj. Et selon nous, le Hajj est considéré comme l'un des 5 piliers de l'islam. et le Coran nous le rend obligatoire pour toute personne responsable et qui a aussi les moyens financiers également, l'aptitude physique et mentale. Mais quand nous regardons le Hajj, moi j'aurais bien aimé un peu parler sur les rites du Hajj, c'est-à-dire les actes qu'on pose dans le Hajj. Je ne sais pas si c'est dans la question à venir ou bien je peux les aborder.
Vous pouvez les aborder tout de suite.
Alors, quand nous regardons le Hajj, il y a ce qu'on appelle la sacralisation, l'Iran, et qu'elle était très fort. Et également, il y a ce qu'on appelle Tawaf, c'est-à-dire le fait que les fidèles tournent sur la Kaaba, vers la Kaaba trois fois, retournent la Kaaba sept fois, disons. Et donc, voilà un acte très fort. Et troisième, un acte également qui doit nous pousser à méditer, c'est la marche, c'est-à-dire entre Safa et Marwa, pour vraiment nous rappeler d'abord. C'est-à-dire c'est que cette femme, la maman d'Ismaïl, a vraiment eu affaire pour sauver son enfant, tout en courant entre le mont Safa et Marwa en cherchant de l'eau. Donc ici, le Hajj nous interpelle le rôle des femmes dans notre société, dans la vie de tout un chacun. Ça, c'est le premier aspect très important. Et le second aspect, c'est quoi? C'est-à-dire pourquoi le Hajj? Parce qu'il y a eu Ibrahim, le prophète Ibrahim, alayhissalam, qui vraiment, à un moment donné, a eu l'accord, la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'égorger son fils. Mais Ibrahim, étant un père, il n'a pas été un père autoritaire. Il est venu se questionner son fils. Donc également, c'est une leçon pour nous, croyants musulmans, aujourd'hui, en tant que chef de famille, chef et responsable d'entreprise, de ne pas imposer, ou en tant que chef de l'État, de ne pas imposer ce que nous voulons aux autres, mais enfin de les consulter. Et quand il a consulté son fils, il a vu que son fils était déjà partant par rapport à cette affaire et par rapport à cette recommandation divine qui est la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah, avec l'obéissance de cet enfant vis-à-vis de son papa, Allah l'a envoyé un bélier pour que l'enfant soit ressuscité. Également, ce qu'on appelle Mina, l'aspect Mina, l'étape Mina, c'est également nous rappeler au moment où Ibrahim avait la main de son fils pour l'amener à l'égorger. Le Satan lui présentait à lui, il disait, mais il est en train de tromper, c'est pas vrai. Il prenait une pierre et il jetait au Satan. Et le jeune Ismaïl, alayhissalam. Est-ce que vous voyez un peu trois fois? C'est pourquoi il y a cet aspect de Mina. Et l'aspect d'Arafat, vraiment qui montre la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran se réunit autour d'Arafat pour vraiment remercier et montrer la gloire de Dieu. Donc voilà un peu, le Hajj est composé de leçons. Ce sont ces leçons-là qui doivent nous interpeller. Nous devons beaucoup, beaucoup, beaucoup s'intéresser à ces leçons. C'est très, très important. Les leçons qui sont derrière les rites du Hajj.
Mmh. Et quel conseil donneriez-vous aux futurs pèlerins pour préparer leur voyage, tant du point de vue spirituel que pratique, Mohamed?
Oui, au point de vue d'abord sanitaire, c'est-à-dire sur le plan physique et sur le plan mental, le Hajj est obligatoire si tu as l'aptitude physique et mentale, également si tu as les moyens financiers. Et donc, en ce moment, on ne doit pas faire de court chemin, c'est-à-dire trouver des papiers médicaux qui ne sont pas vraiment... Tu n'as fait aucun test médical qui prouve que tu es apte à aller au pèlerinage et tu vas mourir sur le coin, alors que ce n'est pas ce qui est recherché par Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu sais que tu as des problèmes cardiaques, tu n'as pas l'aptitude physique, tu ne pourras pas le faire, vaut mieux déléguer tes dépenses à quelqu'un de le faire à ta place. C'est possible, l'islam t'a donné aussi cette opportunité. On a vu beaucoup de gens, j'ai écouté à la radio, à la télé, où beaucoup de pèlerins, les 85% des pèlerins ou les 80% des pèlerins qui sont morts cette année, la majorité n'avait pas vraiment, les papiers médicaux nécessaires. Donc vraiment, on doit vraiment aujourd'hui dans nos pays s'intéresser à ça. C'est pourquoi le Mali est une référence aujourd'hui en matière de pèlerinage. C'est pourquoi l'année 2023, les autorités saoudiennes ont remis, des intentions de reconnaissance à l'État malien, vu l'organisation du pèlerinage depuis l'avènement de la transition.
Alors, Imam Cissé, vous, dans vos enseignements, comment vous abordez la signification spirituelle du Hajj pour les musulmans?
Alhamdulillah, merci pour cette belle question. La signification du Hajj spirituellement, il faut savoir que le Hajj est une invitation de corps et de l'âme. Lorsqu'on regarde, ce n'est pas le fait de tourner autour de la Kaaba simplement ou de faire le saï, voilà, qui veut dire le Hajj, mais le sens. Effectivement, il faut être prêt spirituellement. C'est pour cela, avant d'aller au Hajj, on dit d'abord il faut se revoir spirituellement. Et en allant au Hajj, à qui nous devons obéir? Voilà, nous devons répondre à l'appel de qui? C'est pour cela, même les moyens que nous devons prendre pour effectuer le Hajj, on dit qu'il faut que ce soit des moyens licites. Et lorsque on va, lorsqu'on répète le refrain, la baik Allahumma, la baik Allah, sharik Allah, la baik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharik Allah, ça signifie simplement que je réponds à ton appel. En répondant à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec la sincérité, avec les moyens et avec aussi la capacité sans tricher pour dire Allah, oh Allah, je réponds à ton appel, oh Allah, je réponds à ton appel. Et l'autre aspect, c'est que lorsque les pèlerins se réunissent le jour de Arafat, et ces jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala se vante, on va dire, devant les anges pour dire, voilà mes serviteurs qui sont réunis, ils sont venus de partout, voilà, et par tous les moyens licites pour répondre à mon appel. Il faut savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle des hommes pour dire qu'ils sont réunis, c'est qu'ils sont de la meilleure manière. C'est pour cela qu'on recommande aux pèlerins d'être de la meilleure manière, c'est-à-dire que les meilleurs moyens et les meilleures voies pour qu'on soit ces jours-là devant Allah subhanahu wa ta'ala en disant à Allah subhanahu wa ta'ala, je réponds à ton appel et oh Allah, je réponds à ton appel. C'est pour cela que le prophète nous enseigne, quand le pèlerin il est à la Mecque et qu'il demande pardon, la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un non-pèlerin, Allah pardonne au pèlerin ainsi que et celui qui est resté chez lui, qui n'a pas eu la capacité, les moyens d'être à la Mecque. C'est pour cela que c'est important. Le Hajj n'est pas un voyage ou bien un voyage d'affaires où nous devons rendre pour changer de milieu, mais pour profiter de ces moments précieux, parce que en se mettant devant Allah, en répétant cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit aux pèlerins, lorsqu'il finit, leurs péchés antérieurs, tous les péchés sont pardonnés. Donc, il faut que ça soit de la meilleure manière. Donc,
merci.
Spirituellement, il faut être prêt. Merci.
Merci beaucoup, Imam Cissé. Ahmed, quels sont vos espoirs et aspirations en accomplissant ce pèlerinage que vous voulez accomplir un jour?
Oui, bien sûr, et dans un temps assez proche. L'espoir, il est grand. En fait, il n'y a pas d'ambition ou de rêve que notre Seigneur ne puisse pas réaliser. Alors, quand on se prépare pour aller à la Mecque et on fonde l'espoir nécessaire, tout ce dont on a caressé en tant que vœu dans notre vie présente et également dans le futur. Et donc, moi, personnellement, c'est une ambition. Et c'est vraiment, le vœu de toutes les personnes qui me sont chères et toutes les prières des personnes pour qui j'ai beaucoup d'estime que je vais porter une fois en Terre Sainte, parce que vous le savez, quand vous êtes dans ce lieu-là, eh bien, les possibilités que vos souhaits soient exaucés sont très élevées. Et donc, je nourris l'espoir, bien évidemment, d'aller dans un temps imminent, mais bien sûr de formuler toutes les bénédictions, les vœux et les prières que j'ai en cœur, et surtout pour ceux et celles que nous estimons. Il est important de prier pour soi, mais il est aussi important de prier pour des personnes qui en ont besoin. Et voilà mes ambitions.
Ahmed, rapidement, quelles initiatives sont prises pour sensibiliser les pèlerins au risque de voies irrégulières et les encourager à obtenir des permis officiels en Côte d'Ivoire?
En Côte d'Ivoire, ce travail de sensibilisation est beaucoup plus aisé parce que la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler, depuis un certain temps, bénéficie d'un programme privilégié, ce programme qu'on appelle Tariq Maka ou encore Route de la Mecque. Ce programme-là a été accordé par les autorités saoudiennes à seulement que 7 pays dans le monde entier. Et quand vous bénéficiez de ce programme-là, cela signifie simplement que vous êtes bon élève et que vous êtes parmi les meilleures nations en matière d'organisation du Hajj. Donc les pèlerins ivoiriens, pour la plupart, sont très disciplinés et respectent les protocoles établis. Alors vous ne savez que la perfection ne fait pas partie de ce monde. Il y a des brebis galeuses, il y a des personnes qui utilisent des voies frauduleuses. Et en cela, le Cheikh Oulaïma, qui est le président de l'instance suprême de l'islam en Côte d'Ivoire, en collaboration avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est également le ministre en charge des cultes, ont tapé du poing sur la table avant même les premiers départs des pèlerins. Ils ont fait un travail de sensibilisation énorme pour faire comprendre à l'esprit des pèlerins que si vous utilisez les voies frauduleuses, vous disant que comme les coûts sont un peu plus élevés que l'an dernier, nous allons utiliser des raccourcis, il y a de fortes chances que vous soyez punis, et en cela, les autorités saoudiennes ne rigolent pas. Donc là, les moyens de répression, les voies de répression ont été longtemps martelées à l'esprit des pèlerins, et voilà, le travail aussi de filtration a été fait pour qu'il y ait de moins en moins de pèlerins clandestins, mais il y a encore eu cette année. Mais le fait notable, c'est que, contrairement aux autres années, eh bien, ce chiffre est fortement en baisse.
En quelques secondes, Hamed, vous avez parlé des coûts associés à l'obtention des permis officiels pour le Hajj et pour le déplacement. Mmh. Est-ce que le gouvernement ivoirien soutient financièrement les citoyens qui souhaitent accomplir le Hajj, mais qui en ont des moyens limités? En 30 secondes.
Individuellement, de par ma position, je n'ai pas écho de ce fait-là. De ce que je sais, c'est que l'État subventionne considérablement les coûts du Hajj. Puisque quand vous faites un tableau comparatif avec les coûts au niveau de l'Afrique et même au niveau de la sous-région, la Côte d'Ivoire est largement, l'un des pays les plus flexibles en matière de coûts, même s'il a évolué de 1 800 000 cette année, puisque le Hajj de cette année est fixé à 3 250 000, contrairement à l'an dernier. Eh bien, il faut dire que nous avons les coûts les plus flexibles en Afrique et surtout dans notre partie de la sous-région. C'est dit, les efforts considérables mis en place par l'État de Côte d'Ivoire pour permettre aux familles, aux personnes les plus modestes de pouvoir un jour rejoindre la Terre Sainte.
Merci. Aïda, quelles sont vos préoccupations principales concernant la sécurité et l'organisation du Hajj, et quelles mesures, selon vous, pourraient être prises pour améliorer les conditions de sécurité et d'accueil des pèlerins?
Merci, Eric. Je pense qu'en fait, c'est un problème qui sévit depuis que le Hajj est Hajj. C'est vraiment, en fait, un contrôle des foules. Ça, c'est devenu vraiment problématique, et d'autant qu'en fait, le monde, en fait, ne cesse de s'accroître. En fait, là, les personnes, en fait, sur cette terre ne cessent de s'accroître. Je pense que c'est un grand problème que les autorités saoudiennes, en fait, rencontrent chaque année. Et aussi, en fait, que je pense qu'Ahmed l'a tout à l'heure pensé un peu, le manque de discipline aussi des pèlerins. Ça, c'est un grand problème. Et j'y mets aussi, en fait, une mauvaise gestion, je dois dire, en fait, d'organisation aussi. Mais il n'y a pas que ça. Mais il faudrait aussi dire qu'en fait, les autorités saoudiennes ne sont pas formées de façon à pouvoir communiquer avec tous les pèlerins qui leur arrivent, en fait, sur leur sol. C'est vraiment problématique, en fait, pour non seulement pour les pèlerins, mais aussi pour les autorités sur place.
Merci. Mohamed, vous avez 30 secondes pour répondre à cette question. Quelle est votre opinion sur la croyance populaire selon laquelle les pèlerins qui meurent pendant le Hajj retrouvent directement leur créateur au paradis?
Oui, ça c'est comme on appelle, c'est des gens qui sont dans l'Afsi, ils sont en train de s'auto-éduquer sur la voie religieuse, et dès que tu prends ton bagage pour aller faire le pèlerinage uniquement que pour Dieu, dès qu'un accident t'arrive sur ce chemin, tu meurs. On a toutes les recommandations prophétiques, comme on avait des avis du prophète Mohammed, des versets courants qui prouvent que tu es directement au paradis, et les grands savants, les grands ulémas l'ont interprété ainsi en disant que le pèlerin qui meurt au pèlerinage pendant les rues du pèlerinage était l'habitant du paradis. J'aimerais aborder la problématique, c'est-à-dire les défis sont énormes parce qu'il y a aussi les défis logistiques et sécuritaires. Et l'Arabie Saoudite doit comprendre aujourd'hui que la question du pèlerinage ne les appartient pas seuls. Ça appartient à tous les pays musulmans, ou tous les pays où il y a des grandes fortes communautés musulmanes, vraiment doivent être impliqués dans cette question. Même s'il faut avoir des équipes bien avant l'arrivée des pèlerins à la Mecque pour vraiment essayer d'échanger avec eux et pousser un peu les gens à être un peu éduqués sur le plan comportemental.
Merci Mohamed pour toutes ces précisions en cette période donc de recueillement. Nous adressons nos pensées aux personnes décédées et à leurs familles. Puissent leur sacrifice être honoré et leur mémoire respectée. Malheureusement, nous devons mettre au terme cette émission. Le temps est fini. Merci de nous avoir suivis. Merci à Aïda Sarr, à Ahmed Bakayoko, à l'imam Sissé Mustapha et à Mohamed Abdelahi Al-Khalil pour vos différentes contributions. Eric Manila qui a été avec vous, Michel Claire Joseph a assuré la réalisation. Je vous souhaite une excellente soirée et à la prochaine. Au revoir.